Ces cinq dernières années, les jeunes de notre assemblée sont allés chaque été à un camp de jeunes qui s'appelle Teen Street. Et je me souviens, lors de la première fois où nous sommes allés à ce congrès, à l'été 2013, j'y ai aussi participé, je me souviens d'une jeune fille, je ne sais plus quel âge elle avait, entre 16 et 18 ans peut-être. Et cette jeune fille avait témoigné devant 3000 personnes ce matin-là que Dieu l'avait guérie ce jour-là de sa dépression. Et puis toute la salle a applaudi, les gens disaient « Amen, Alléluia ». Les orateurs de ce congrès ont fait quelques commentaires sur le Dieu qui guérit, le Dieu des miracles, etc. Je ne sais pas ce qu'est devenue cette jeune femme, 5 ans après. J'espère qu'elle va bien. Mais je me dis, imaginons que pour une raison ou pour une autre, elle est rechutée dans la dépression. Quelles seront les conséquences pour sa foi en Dieu ? Parce qu'elle a dit devant 3000 témoins au moins qu'elle était guérie. Et tout le monde a dit « Amen ». Certains diraient peut-être qu'en posant cette question, je manque de foi. Les relations entre la foi et la guérison ne sont pas simples. Mais la Bible nous dit avec certitude deux choses. Que Dieu guérit et que Dieu n'est pas un distributeur de guérison. La Bible nous dit aussi que notre foi n'est jamais la cause de notre guérison. Et le texte que nous allons lire dans l'évangile de Marc ce matin en témoigne de nouveau. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'évangile selon Marc. Nous reprenons notre série de prédications sur Marc ce matin. Et nous arrivons dans la dernière partie du chapitre 5 et nous allons lire aussi le début du chapitre 6. Nous suivons depuis quelques semaines une succession d'épisodes qui montrent de façon spectaculaire l'autorité de Jésus. L'autorité de Jésus sur les éléments de la nature. On voit au chapitre 4 Jésus qui apaise une tempête. L'autorité de Jésus sur les esprits mauvais. Au début du chapitre 5, un homme déchaîné, surpuissant, qui a une force surhumaine et que Jésus apaise. Et ce matin, nous allons voir l'autorité de Jésus sur la maladie et sur la mort. Et à chaque fois, dans ces épisodes, dans ces situations, Jésus fait un miracle, non pas d'abord pour se faire de la publicité, mais pour révéler, par petites touches, son autorité et susciter la foi de ceux qui sont témoins de ces signes miraculeux. D'abord les personnes qui sont concernées par ces maladies, etc., mais aussi les gens qui sont spectateurs des miracles de Jésus. Et donc, ce matin, nous avons 3 nouveaux témoins de l'autorité de Jésus, une femme malade, une fillette mourante, et puis ceux qui ont connu Jésus quand il était petit, dans sa ville, son village à Nazareth. Alors je vous invite à lire dans l'évangile selon Marc, au chapitre 5, à partir du verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jaïrus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous les côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et, dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna vers la foule et demanda « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles et dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et en arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi tout ce vacarme? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talita kumi », ce qui signifie, en araméen, « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. » Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Jésus partit de là et retourna dans la ville dont il était originaire, accompagné de ses disciples. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. « D'où tient-il cela ? » disait-il. « Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ?» Et voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit « C'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa famille que l'on refuse d'honorer un prophète. » Il ne put accomplir là aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Et il fut très étonné de leur incrédulité. Nous lisons jusque-là le texte de ce matin, que je vais découper en trois temps. Jésus est plus fort que la maladie. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Jésus est plus fort que la mort. Troisième point, mais Jésus ne se laisse pas manipuler. Premier temps, Jésus plus fort que la maladie. Notre récit commence et finit, dans la première partie, avec l'histoire de Jaïrus. Vous voyez, il y a une sorte de sandwich ici, dans le texte. On commence avec l'arrivée du chef de la synagogue, et puis ensuite sa fille est guérie par Jésus, et entre les deux, une femme qui est là dans la foule vient toucher Jésus. Et vous avez peut-être remarqué qu'il est mentionné deux fois 12 ans. 12 ans pour les pertes de sang, l'hémorragie de la femme qui vient toucher Jésus, 12 ans l'âge de la jeune fille que Jésus relève de la mort. Marc a mis ensemble ces deux récits, certainement parce qu'avec ses 12 ans, on se souvient des deux histoires en même temps, et on se souvient qu'elles s'emboîtent l'une dans l'autre, n'est-ce pas ? C'est un moyen donc de se souvenir que les deux récits vont ensemble, doivent être lus et compris ensemble. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ce matin. Alors, pour la clarté de la prédication, je vais découper en deux temps. Commençons par l'histoire de cette femme qui se trouve dans la foule, alors que Jésus est en route vers la maison du chef de la synagogue. La présence de cette femme dans la foule est improbable. Dans la foule, alors qu'elle a une hémorragie, des pertes de sang, une maladie, qui la rendait impure selon la loi. On trouve dans le livre du Lévitique, au début de la Bible, au chapitre 15, une série de lois qui concernent les puretés rituelles. Et nous lisons, par exemple, Lévitique, chapitre 15, verset 25, « Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours, en dehors de la période de ses règles, ou au-delà du temps normal de son indisposition, ce qui était le cas de cette femme, elle sera impure tout le temps que durent ses pertes, comme au temps de ses règles. Tout lit sur lequel elle se couchera pendant le temps que durent ses pertes, et tout meuble sur lequel elle s'assiera seront impurs, comme dans le cas de son indisposition menstruelle. Quiconque les touchera, donc les autres personnes, sera impur, il lavera ses vêtements, se lavera avec de l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. » Donc, la femme qui a cette hémorragie, cette perte de sang, est considérée comme impure. Les objets qu'elle touche sont considérés comme impurs et les gens qu'elle touche sont considérés comme impurs. Autrement dit, cette femme est dans une situation d'exclusion sociale et culturelle. Elle ne pouvait donc pas se rendre au temple pour prier, etc., puisqu'elle était en situation d'impureté. Et cela dure depuis 12 ans. Une petite remarque concernant ces lois rituelles de l'Ancien Testament. Patrick avait déjà donné un enseignement là-dessus. Concernant ces impuretés rituelles, on voit avec ces lois et la situation de cette femme ce matin que ces lois pesaient comme un fardeau lourd sur le peuple et faisaient comprendre au peuple d'Israël qu'on ne pouvait pas se tenir en présence du Dieu saint en étant impur. L'homme, la femme, avait besoin d'être purifié et ces rites de purification rappelaient que le péché rend le cœur humain impur et nécessite sa guérison. Ces lois ont été données pour un temps au peuple de Dieu en attendant l'instauration d'une nouvelle ère, d'un nouveau royaume dans lequel on serait libéré de toute impureté. Et le texte de Marc, chapitre 5, que nous lisons ce matin, est un exemple de la venue de cette nouvelle ère et de celui qui libère de toute impureté. Jésus, le roi, le Christ, le Fils de Dieu. Marc, chapitre 1, verset 1. C'est le titre et le point principal de tout cet évangile. Jésus est le roi de ce nouveau royaume, il est le Fils de Dieu. Revenons à la scène de Marc 5. En plus d'être impure en permanence, et donc isolée socialement, cette femme vit dans une grande précarité financière. Vous avez vu, Marc nous dit qu'elle a dépensé toute sa fortune en consultation médicale. Et loin de s'être améliorée, son état s'est aggravé. Que fait-elle donc ici ? Dans cette foule. Elle veut toucher Jésus. C'est le verbe principal dans ce passage. Regardez à partir du verset 27. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait toucher son vêtement, en se disant « si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri ». À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna vers la foule et demanda « qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Mais Jésus continue à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela, c'est-à-dire qu'il avait touché. 4 fois le mot touché, presque 5 fois en quelques versets. Cette femme est venue toucher Jésus, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Toucher Jésus, c'est transgresser la loi. Déjà, cette femme est dans la foule alors qu'elle ne doit avoir aucun contact physique. Et la voilà qui, discrètement, vient toucher Jésus dans l'espoir d'être guérie. Et à l'instant même, elle est guérie. Maintenant, regardez la réaction de Jésus. « Qui m'a touché ?» dit-il. Question étonnante. Et d'ailleurs, les disciples ne comprennent pas cette question. Tout le monde te touche. La foule te presse de tous côtés. Toi, tu dis « qui m'a touché ?» Pourquoi Jésus pose-t-il cette question ? Est-ce parce qu'il ne sait pas qui l'a touché ? Et il se retourne et il dit « qui m'a touché ?» Non. Verset 30. Jésus a conscience qu'une force est sortie de lui. Ça ne lui a donc pas échappé. Deuxièmement, verset 32, il continue à parcourir la foule du regard pour voir, non pas qui l'avait touché, mais celle qui avait fait cela. Jésus sait donc très bien qui l'a touché. Pourquoi donc pose-t-il cette question ? Qui m'a touché ? Eh bien, en cherchant cette femme du regard, il la pousse à témoigner publiquement de sa guérison. Pourquoi ? Pour l'aider à se réinsérer socialement ? Certainement. Mais surtout pour que cette femme et la foule autour entendent cette parole au verset 34. « Ma fille, parce que tu as eu confiance en moi, tu es guéri, va en paix et sois guéri de ton mal. » On pourrait avoir l'impression en lisant ce texte que Jésus guérit malgré lui et que là où il passe, une sorte de fluide sort de lui et guérit les gens à droite à gauche. Pas du tout. Jésus sait et contrôle parfaitement ce qu'il fait. Comme je le disais en introduction, Jésus agit pour susciter la foi des gens. Quel est donc le message qu'il adresse à cette femme et à la foule ici ? Le message est le suivant. Tu as eu raison d'oser me toucher, parce que c'est moi et moi seul qui libère l'être humain de toute impureté. Voilà le message que Jésus adresse à cette femme et à la foule. À cette femme qui vient toucher Jésus en transgressant la loi, ce lourd fardeau qui fait peser sur elle cette impureté et cette solitude, à cette femme Jésus dit « Moi, je prends en charge ton impureté. Moi, je guéris ta maladie. Moi, le Fils de Dieu. J'instaure une nouvelle ère dans laquelle quiconque met sa confiance en moi est libéré du fardeau de son péché. » Ce qui m'amène à la question suivante pour nous aujourd'hui. Comment est-ce que nous touchons Jésus ? Alors Jésus n'est pas là en chair et en os, n'est-ce pas ? C'est donc une image. Je reprends ce mot clé dans le texte pour poser cette question. Comment touchons-nous Jésus ? Quel genre de confiance lui accordons-nous ? Parmi nous ce matin, il y a peut-être ceux qui restent à distance, qui s'intéressent à Jésus, mais de loin, dans la foule anonyme. Vous êtes invités à vous approcher davantage pour rencontrer Jésus personnellement et venir le toucher, vous aussi, parce que vous avez besoin de lui. Parmi nous, il y a peut-être aussi ceux qui, comme la foule, au début de notre passage, se rassemblent quand Jésus débarque, parce que Jésus est quand même célèbre, verset 21. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage, et les gens pressent Jésus de tous les côtés, parce que Jésus, c'est pas n'importe qui. Peut-être certaines personnes, des chrétiens, vous ont dit que Jésus guérit et vient en aide à ceux qui le prient. Et c'est vrai, par certains côtés. Mais Jésus, nous le voyons dans ce texte, n'est pas un distributeur de guérison. Combien de personnes dans cette foule ont touché Jésus ? Beaucoup. Et pourtant, une seule est guérie. Cette femme, parce qu'elle a mis sa confiance en Jésus, parce qu'elle voit en lui, justement, plus qu'un guérisseur, plus qu'un énième médecin sur la longue liste des médecins qu'elle a vus. Elle voit en lui son sauveur, celui qui, enfin, peut enlever son impureté physique, oui, mais aussi spirituelle. Est-ce de cette manière que nous voyons ou que nous touchons Jésus dans notre relation avec lui ? Ou bien est-ce que peut-être nous lui demandons son aide quand nous avons un souci ou une maladie ? Et puis après, nous l'oublions. Jésus est plus fort que la maladie. Jésus est aussi plus fort que la mort. C'est le deuxième temps dans cette prédication. Retrouvons Jaïrus en chemin avec Jésus. Nous l'avons vu au début de ce texte, il vient supplier Jésus de le suivre parce que sa fillette de 12 ans, est mourante et Jésus le suit. Et puis au verset 35, alors qu'ils reprennent leur route après l'intervention de cette femme, les gens viennent de chez lui dire « Ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore Jésus ?» Parole pleine de tact et de compassion, n'est-ce pas ? Incroyable. Jésus balaye d'un revers de main cette parole violente et blessante. Verset 36. Jésus entendit ces paroles et il dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Jésus appelle Jaïrus à croire alors que tout semble s'écrouler. On vient lui annoncer que sa fille est décédée. Alors, croire quoi ? Croire qui ? Croire en quoi ? Peut-être croire comme cette femme qui, justement, est venue à oser transgresser la loi pour toucher Jésus, pour être guérie de ses maladies. Peut-être Jésus invite-t-il là, Jaïrus aussi, à avoir pleinement confiance en lui. Et là, Jésus fait quelque chose d'étonnant. Il fait le tri parmi les gens qui le suivent. Vous avez vu ça ? Et parmi les gens qui vont être témoins de la suite des événements. Il fait le tri dans ses disciples. Donc, seuls Pierre, Jacques et Jean peuvent l'accompagner. Et on retrouvera ce choix de Jésus, ce tri, au chapitre 9, dans l'épisode de la transfiguration de Jésus. Et aussi au chapitre 14, dans le jardin de Gethsémané, où Jésus prend à part avec lui Pierre, Jacques et Jean pour prier. Donc, Jésus fait le tri dans ses disciples, Jésus fait le tri dans la foule, voilà, c'est simple, personne ne peut l'accompagner. Et puis Jésus fait un troisième tri dans la maisonnée du fameux Jaïrus. Vous avez vu, quand il arrive, il y a déjà les pleureuses qui sont là, tous ceux qui crient et qui s'agitent, Jésus les fait sortir. Reste donc, au verset 40, le père, Jaïrus, et la mère de l'enfant, qui était certainement à la maison, les trois disciples de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, et Jésus. Maintenant, que fait Jésus ? Jaïrus lui avait demandé de venir, disait-il, verset 23, imposer les mains à sa fille pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. Mais Jésus ne lui impose pas les mains. Il la prend par la main en lui disant de se lever. Jésus, verset 41, lui prit la main en disant « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Et là, les 5 spectateurs seulement de la scène sont sidérés. Quel est le remède que Jésus préconise ? Il demande aux parents de donner à manger à cette jeune fille. Tout simplement. C'est très étonnant. Cette jeune fille est morte quand même. Tout l'entourage l'avait constaté. Les coutumes funéraires avaient commencé. Les pleureuses pleuraient. Les gens criaient. On exprimait, voilà, comme souvent dans la culture orientale, le deuil de cette manière. Et Jésus, au milieu de cette agitation, dit, elle n'est pas morte, elle dort. Et dans l'intimité de cette chambre, Jésus demande simplement à cette jeune fille de se lever. Elle est morte. Comment cette fille est-elle passée de la mort à la vie ? Mystère. Mais de nouveau, nous voyons que la présence, la parole et la puissance de Jésus font reculer la mort au profit de la vie. Et de nouveau, Jésus demande qu'on ne lui fasse pas de publicité. Verset 43, Jésus leur recommanda instamment de ne raconter ce miracle à personne. Pourtant, ils doivent être motivés maintenant pour partager la nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce passage? On voit plusieurs réactions aux paroles et aux actes de Jésus ici. Il y a l'entourage incrédule, voire moqueur, verset 40. Donc quand Jésus dit « Elle n'est pas morte, elle est seulement endormie », les gens se moquent de lui. On voit les parents et les disciples qui sont sidérés, stupéfaits. Et puis on a vu aussi l'angoisse de ce père, Jaïrus, à qui l'on vient dire sans aucun tact « Ta fille est morte, maintenant ça suffit, arrête de gémir, arrête de te plaindre. » Et à qui Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement. » Mais on n'a pas la réponse de Jaïrus. Alors, nous pouvons là aussi essayer de nous situer par rapport aux paroles et aux actes de Jésus. Soit du côté de l'incrédulité ou de la moquerie, ou alors de l'étonnement, de la stupéfaction, mais et après, une fois qu'on a été étonné, qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors de l'angoisse, de la crainte, comme Jaïrus quand la situation s'aggrave. Le message principal ici, c'est cette parole de Jésus. Ne crains pas, crois seulement. Qu'il est difficile d'avoir confiance en Jésus sans crainte. Ne crains pas, crois seulement. Il y a là de la part de Jésus, pour ce Père, mais aussi pour nous, une invitation à une confiance totale. Surtout quand on ne maîtrise plus rien ou que tout semble perdu. Remarquez au passage que la foi de Jaïrus n'est pas mentionnée. Jésus lui dit « Crois seulement !» Mais on ne sait pas ce que Jaïrus a choisi. Et la foi de ce père n'intervient en rien dans la guérison de sa fille. C'est Jésus qui ordonne à la jeune fille de se lever, et elle se lève. Pourtant, la foi de ce papa est durement mise à l'épreuve. Comment aurions-nous réagi à sa place ? comment réagissons-nous aujourd'hui dans les situations qui sont les nôtres, peut-être certaines qui sont désespérées, où nous ne voyons pas d'issue. Comment entendons-nous ou réentendons-nous cette parole de Jésus ? Ne crains pas, crois seulement, fais-moi confiance, sans trembler. Jésus est plus fort que la maladie, plus fort que la mort. Mais Jésus ne se laisse pas manipuler, et ce sera la dernière partie ce matin. Dernière étape du parcours de Jésus dans notre texte, Nazareth. Jésus retourne là où il a grandi et ses disciples l'accompagnent. Et là encore, les gens qui l'entendent sont stupéfaits. Verset 2, beaucoup de ses auditeurs furent stupéfaits ou très étonnés. Voyons les conséquences de cet étonnement. L'étonnement, c'est ça qui ressort dans ce passage. On commence avec l'étonnement des gens, verset 2, et on termine avec l'étonnement de Jésus. Dans sa propre patrie, Jésus ne fait aucun miracle, ou très peu. Il y a un contraste énorme entre les épisodes précédents, si on relit tout ce passage qu'on a vu en plusieurs étapes, la tempête apaisée, l'esprit mauvais chassé, aujourd'hui, cette femme guérie de son hémorragie, cette fillette qui revient à la vie, et là, dans sa propre patrie, rien. Ou presque. Pourquoi ? Pourquoi cette série de miracles spectaculaires se termine-t-elle par cet épisode à Nazareth où Jésus ne fait aucun miracle ? Ou juste quelques-uns, discrètement. Est-ce parce que ses copains d'enfance ne croient pas en lui ? Mais on trouve de l'incrédulité dans tous les épisodes précédents. La tempête apaisée, les disciples sont plus terrifiés après l'intervention de Jésus que pendant la tempête. L'esprit mauvais chassé, ce n'est pas à cause de la foi de l'homme tourmenté qu'il est guéri, qu'il est délivré. Il veut même, on a l'impression, garder ses démons. Il supplie Jésus de ne pas les chasser. Jaïrus, il supplie lui aussi Jésus. Il supplie que Jésus intervienne pour sauver sa fille. Mais nous avons vu que le texte ne dit rien sur la foi de ce papa, qui pourrait nous faire penser que sa fille est guérie parce que lui a eu de la foi. Il n'y a que cette femme atteinte d'hémorragie qui fait preuve de foi. Et Jésus le dit, ta foi t'a guéri. Mais nous avons vu que c'est Jésus qui l'a guéri. Sa foi à elle n'est que le moyen de cette guérison. Ce n'est donc pas à cause de leur manque de foi en tant que tel que Jésus ne fait pas de miracle parmi les habitants de Nazareth. C'est parce que ces gens non seulement ne croient pas en lui, mais aussi le rejettent. On pourrait être tenté de se dire, mais c'est parce que Jésus n'a pas fait de miracle que ces gens ne croient pas. Si Jésus avait fait des miracles, peut-être ils auraient eu confiance en lui. Mais regardez, Jésus opère quand même quelques guérisons. Il ne put là, verset 5, accomplir aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Il y a quand même quelques guérisons. Et pourtant, ces guérisons ne changent rien à l'incrédulité des gens. Et c'est là le problème. Ils sont attachés à leur croyance. Quelle croyance ? Ils sont restés sur le Jésus qu'ils ont connu enfant. Versets 2 et 3. Beaucoup de ses auditeurs furent très étonnés. D'où tient-il cela, disait-il ? Qui lui a donné cette sagesse ? D'où lui vient le pouvoir d'accomplir tous ces miracles ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-elles pas ici parmi nous ? Voilà pourquoi ils trouvaient en lui un obstacle à la foi. Ces gens qui ont connu Jésus pendant un certain nombre d'années ne supportent pas le décalage qu'il y a entre l'idée, l'image qu'ils se sont fait de Jésus et ce qu'il est vraiment. Et ce que Jésus est vraiment, c'est un prophète. La remarque de Jésus à ce propos est cinglante. Verset 4. Jésus leur dit, c'est seulement dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. C'est dur, hein, comme parole. Il est en train de leur dire, vous me rejetez, je suis prophète. Jésus leur envoie là une pique pour pointer leur aveuglement spirituel, leur faux raisonnement à son sujet. Jésus aurait pu, peut-être, là aussi, imposer son autorité de façon spectaculaire. Mais il ne le fait pas. Pourquoi ? Je pense que c'est parce que ses auditeurs ne sont pas réceptifs, mais ils sont au contraire vissés dans leur faux raisonnement. Et donc Jésus ne tombe pas dans le piège du spectacle pour répondre à des attentes qui, en fait, ne correspondent pas à un réel désir de changer de vie. Alors, peut-être que pour nous aussi, ce matin, Jésus ne rentre pas dans nos cases. Et peut-être que cela nourrit une certaine incompréhension, voire un certain rejet. Le texte ici nous invite à reconsidérer certains a priori qui sont peut-être tout simplement faux concernant Jésus ou en tout cas qui témoignent d'une compréhension limitée de qui est Jésus. Et le texte de ce matin, mais aussi toute cette série de prédications sur Marc, a pour objectif de nous aider à mieux comprendre qui est Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, pour pouvoir lui faire davantage confiance, pour qu'il dirige nos vies. Si nous sommes chrétiens, nous sommes peut-être aussi confrontés à l'incompréhension ou à l'incrédulité de nos proches, ceux qui nous ont vus grandir et qui ne comprennent pas ce que nous croyons. Jésus nous rappelle ici qu'il est difficile de témoigner de sa foi dans sa propre famille ou dans son entourage proche. Pourquoi ? Parce que les gens nous connaissent ou croient nous connaître. Ils ont des idées plus ou moins arrêtées sur nous et ne veulent pas ou ne peuvent pas nous voir autrement. Parce que cela voudrait dire pour eux qu'eux aussi pourraient changer. Et ça, ça demande un acte de foi. Cela veut dire renoncer à être son propre Dieu, à penser selon ses propres critères, et à laisser Christ conduire notre vie. Et donc, avec ce texte, et je terminerai par là, Dieu nous invite à la persévérance et à l'humilité dans la prière et dans le témoignage auprès des nôtres, peut-être en particulier auprès des membres de nos familles, puisque Jésus va là dans sa propre famille, dans sa propre patrie. Quand nous devenons chrétiens, nous trouvons dans l'Église une famille, des frères et sœurs, comme nous disons souvent. Et ces frères et sœurs en Christ peuvent nous aider, avec la grâce de Dieu, à tenir bon dans le témoignage auprès des nôtres. Témoignage qui est parfois difficile. Les groupes de maisons, les groupes de quartier que nous organisons depuis déjà quelques temps sont aussi une occasion de partager avec les frères et les sœurs ces difficultés que nous pouvons rencontrer dans le témoignage. Alors pour terminer, je vous invite à prier. Ô Dieu, nous te remercions pour les paroles et les actes de Jésus. Et nous voyons comment cela nous invite aussi à nous positionner par rapport à lui, par rapport à la confiance que nous avons ou que nous n'avons pas en lui, souvent au gré des circonstances. Viens à notre aide par ton esprit, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises tout au long de ce culte, c'est ton esprit qui seul peut nous aider non seulement à te faire confiance, mais à persévérer dans cette confiance. Aide-nous pendant cette journée, pendant cette semaine, à te laisser diriger complètement nos vies. Que ce ne soit pas seulement des mots ou la bonne intention d'un moment, mais une réalité pour cette semaine. Certains d'entre nous traversent peut-être des maladies ou des situations pénibles ou qui pèsent comme un fardeau lourd sur leurs épaules. Seigneur, viens à leur secours pour alléger leur fardeau, les aider à relever la tête pour regarder à toi et traverser ces moments de souffrance avec toi et avec les frères et sœurs. Merci pour cette famille que tu nous donnes en Jésus-Christ. Amen.